Oui, Michel Baglin, qui a vu son premier recueil de poésie édité en 1974, quand il était encore journaliste. Il a été journaliste, ça a été son métier jusqu'en 2009. Il a, entre-temps, publié plus d'une vingtaine de livres, des romans, des essais, des recueils de nouvelles. Et parallèlement à l'écriture de ses livres, Michel Baglin est aussi un critique. Et il anime encore actuellement sur Internet la revue Texture, revuetexture.fr, c'est un site littéraire qu'il anime actuellement. Si on l'a avec nous aujourd'hui, Michel Baglin, au téléphone, c'est tout simplement parce que il a été mis un petit peu à l'honneur par l'association Confluence qui organise plein de manifestations pour ce printemps des poètes. Et notamment, il y aura une rencontre qui va avoir lieu mardi à Mémo, la nouvelle médiathèque de Montauban, avec cet auteur dont les quelques mots que je vais lire maintenant ont été choisis pour initier un concours poétique. S'enivrer d'odeurs, de saveurs et de bruits pour raviver ce corps qui dit « tu es ici ». Voilà, ça, quelques mots sont de Michel Baglin et c'est autour de ça qu'il y a de nombreux Tarn-et-Garonnais qui s'essayent à la poésie et pour ce concours. Donc Michel Baglin, bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio pour faire un peu plus connaissance. Alors déjà, peut-être on va rentrer par ce texte là que oui. C'est pas vous qui l'avez choisi en fait, hein. C'est Maurice Petit qui l'a choisi ce texte.
Maurice Petit, oui, qui sera donc à la soirée qui m'est consacrée le 12 mars, qui lira les textes avec moi puisqu'on fera un duo. Et donc c'est lui qui a choisi ce passage, oui. J'espère qu'il ne fait pas que les gens, il ne fait pas trop souffrir les participants au concours.
Est-ce que vous vous rappelez, parce que vous écrivez beaucoup évidemment, mais est-ce que vous vous rappelez l'instant où vous avez écrit ces quelques vers là?
Oui, je me rappelle pas précisément du moment où je les ai écrits, mais de l'époque, oui, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus, je crois. C'est un recueil qui est paru en 91, si je me souviens bien. Mais bon, de la disposition d'esprit, c'est toujours la même, hein. Moi, c'est un poème qui fait référence au corps et à l'ouverture au monde, quoi, hein. Je pense que, bon, c'est l'essence. Il s'agit de s'enivrer et de laisser le monde venir à soi par tous les sens, par la vue, par l'odorat, par les bruits, par les odeurs, par les saveurs. Bref, il s'agit de s'aviver. Et se rendre plus vivant, quoi.
Ça y est, mais avec cette dernière citation, tu es d'ici. C'est quelque chose d'important, ça aussi, pour vous?
Oui, pour moi, oui, parce que la poésie, bon, j'écris des poèmes, j'écris de la poésie, j'écris des romans, j'écris des nouvelles, mais la poésie, pour moi, est première dans le sens où la poésie, c'est un langage fait d'images, c'est un langage qui essaie d'être global, de dire la personne ou les gens, peu importe, mais de dire le monde dans tout, à la fois intellectuellement, mais avec le corps, avec les sens, bref, avec la sensualité. Et en fait, c'est contrairement à ce qu'on prétend souvent, la poésie, c'est pas une façon de s'exiler dans l'ailleurs ou dans le rêve. La poésie, au contraire, je crois qu'elle nous apprend à mieux vivre, à être ici, à nous aider à être ici, à ici-bas, quoi, à être plus fortement présent au monde, à mieux, en quelque sorte, le poème ravive les couleurs du monde, quoi.
Vous sentez mieux, vous, en tant qu'auteur de poèmes ou en tant que lecteur de poèmes? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction, Michel Baglin?
C'est pas loin d'être le même plaisir, je dirais. Le plaisir, c'est quand une image juste arrive, parce que, ah oui, c'est ça, ça rend ce qu'on a ressenti, ou ce qu'on a éprouvé, et cette image juste, elle arrive, on la trouve dans les livres des autres, mais elle peut venir sous notre plume, mais elle nous surprend nous-mêmes, quoi. Je crois que un poète travaille, bon, c'est un poème, ça se travaille longtemps, mais en même temps, il y a tout un travail obscur qui se passe dans la tête, enfin, et puis dans le corps, je ne sais où, et dans la langue surtout, qui fait que des choses émergent qu'on n'a pas toujours prévu et qu'on ne maîtrise pas, mais qui viennent et qu'on garde ou qu'on ne garde pas, mais on les garde quand justement elles sont justes. Et en fait, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même plaisir de la justesse, quoi.
On parle beaucoup de chansons, nous, sur CFM Radio, hein, parce que on est une radio rock, mais aussi on aime beaucoup la chanson. Il y a qu'un pas, hein, entre la poésie et la chanson, c'est la musique, quoi, qui marie les deux, qui fait devenir un poème une chanson à un moment.
Je ne saurais pas faire le distinguo. Moi, je suis venu à la poésie par la chanson. À l'époque, quand j'étais gosse, par Brassens, qu'on écoutait beaucoup à la maison, mes parents. Et donc, et puis après, plus tard, il y a eu Brel, il y a eu Ferré, et puis bien d'autres. Hein. Et puis Garot, bien sûr, et puis beaucoup d'autres, mais qui ont des textes poétiques. Mais la chanson, la musique, j'y suis sensible. Et donc, il y a des gens qui prennent des airs dédaigneux pour parler de la chanson, enfin des poètes. Moi, je ne fais pas de vrai distinguo. Et d'ailleurs, j'ai des textes qui ont été mis en musique par différents chanteurs et j'en suis ravi, quoi.
Ah bon, vous avez des chanteurs qui ont mis vos textes en musique?
Oui, Martine Kaplan, qui est une spécialiste. Sam Tellam, je ne sais pas si vous connaissez Sam Tellam, qui fait beaucoup de jazz. Et puis d'autres, Jackie Bennett, comme ça. Je ne retrouve plus son nom, pardon.
Alors, peu importe, je voulais en venir là maintenant à ce concours de poèmes. S'il y avait un conseil du poète affirmé que vous êtes vers ceux qui s'essayent à la poésie au travers, par exemple, de ce concours, qu'est-ce que ce serait le conseil que vous donneriez pour bien démarrer l'écriture d'un poème?
Le premier, ça serait de laisser d'être vrai, c'est-à-dire de laisser venir ce qui vient, surtout pas les clichés, pas les trucs qui appartiennent à tout le monde, enfin, ou à personne, en fait, qui sont ce qu'on entend, quoi, véhiculés par le langage, les lieux communs, les clichés, parce que ça, c'est la fausseté même, et c'est ce qui épuise la langue, ce qui empêche d'être vrai, quoi. Il faut essayer d'être dans le même effort, parce qu'on est tous poètes à certains moments dans la vie, quand on veut faire passer quelque chose de difficile, quand on veut dire je t'aime, mais un peu plus, d'une manière un peu plus complexe, parce que le je t'aime, justement, c'est générique, ça dit pas grand chose, on cherche ces mots, les mots nous manquent, on les cherche. Pareil dans la douleur, quand on veut partager une souffrance, quelque chose avec quelqu'un, on cherche ces mots. Et dans ces cas-là, on est poète parce que justement, on va au fond du langage pour dire, pour partager. C'est le partage qui compte. Et donc, le conseil, c'est ça, c'est d'éviter tout ce qui est, on peut dire à quelqu'un qui souffre, mes condoléances, bon, d'accord, mais on n'a rien dit en disant ça. Il faut dire autre chose. Et là, c'est pareil, quoi. Pour un poème, il faut se mettre en posture d'être vrai le plus possible. Et puis après, il vient ce qui vient, et après, on garde ce qu'on garde. Mais dans un premier temps, faut laisser venir.
Oui, enfin, faut laisser venir, mais c'est quand même, d'après ce que vous dites, du travail. Il y a une souffrance là-dedans.
Souffrance, faut pas exagérer, hein, c'est du plaisir aussi. Mais c'est du travail dans la mesure où, les choses vont arriver. Là, c'est pas, elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Bon, ce n'est pas inspiré, comme on dit. Mais si on se met dans des dispositions d'ouverture, quoi, ça vient, c'est de faire travailler aussi la mémoire. Et puis laisser remonter ce qu'on a en soi. Hein, on a tous en soi des formes de poèmes encore non formulées, quoi. Laisser remonter ça. Après, le travail commence quand il faut choisir, enlever, dire, ça va pas, ou ça sonne mal, ou ça, c'est bon, ça dit pas vraiment ce que je veux dire. Alors là, c'est du boulot. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais au départ, je crois que c'est une disposition à la sincérité, à l'authenticité qui importe.
Michel Baglin, qu'est-ce que vous lirez mardi 12 mars lors de la rencontre poétique qui vous est consacrée à 18h30 à la médiathèque de Montauban?
Je vais lire, on lira avec Maurice Petit, puisqu'on n'a pas encore exactement partagé les choses, comment on lira ça, mais on lira des extraits d'une anthologie poétique qui reprend des poèmes d'un peu toute ma, depuis 40 ans, quoi, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, j'ai écrit publié mon premier recueil en 1974, donc on va reprendre des poèmes de toute cette période jusqu'à aujourd'hui, et puis également je viens de publier un recueil de nouvelles, policières qui s'appelle La part du diable, ce sont des nouvelles policières, des nouvelles noires, disons, mais en même temps, la plupart humoristiques. Et donc, on en lira sans doute deux. Je crois que l'une d'entre elles avait déjà été lue par Maurice Petit au moment de l'inauguration de mes mots de la médiathèque. Je n'y étais pas, donc je crois qu'elle est bien passée. Les gens les gens se sont marrés parce que je crois qu'elle est drôle. Voilà, donc on fera alterner poèmes, nouvelles, et moi je lirai également, je pense, quelques extraits d'un livre qui avait paru il y a quelques années à la Table Ronde, Entre les Lignes, qui sont des souvenirs sur les trains. C'est un univers que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, c'était un peu le train, les lignes, la métaphore de l'écriture en même temps, c'est puis des souvenirs d'enfance, voilà. Je lirai des passages sur les escarbilles notamment. Voilà, en gros, et puis quelques textes inédits sans doute, mais tout dépendra du temps qu'il restera.
Ah ben voilà, rendez-vous est pris donc mardi 12 mars à Mémo, hein, la nouvelle médiathèque de Montauban. Ce sera à partir de 18h pour le concours poétique et puis à 18h30 les lectures avec Maurice Petit et vous-même, Michel Baglin. Je rappelle que c'est ouvert à tous, hein, c'est le printemps des poètes, voilà, faut pas hésiter à aller rencontrer en chair et en os des gens qui écrivent des choses courtes ou longues, hein, parce que vous faites aussi des romans.
Et puis en plus, ce qui importe, c'est d'être la poésie. On a véhiculé à un moment donné l'idée d'une poésie assez obscure, difficile, etc. Bon, je crois que c'est bien autre chose, la poésie. Je pense que la mienne n'est pas difficile en plus. La poésie, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus quotidien. Voilà ce que je tiens à dire.
Voilà, si on veut en savoir plus sur vous, Michel Baglin, on va sur votre site internet. revue-texture.fr, un site littéraire qui fait vivre justement la poésie aussi au travers.
C'est des critiques, il y a plusieurs personnes qui collaborent, c'est moi qui l'ai créé. C'est des critiques de livres de différents types, poésie, romans, nouvelles, etc.
Merci Michel Baglin d'avoir été avec nous pour le dire sur CFM Radio, à bientôt.
Merci, bonsoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, 17h30, 19h, à Kultour, la vie des pays. CFM.
CFM.
À qui le tour ?
17h30, 19h.
CFM.
Bonsoir tout le monde, salut Rémi.
Salut,
c'est l'heure, ça y est, faut y aller.
Bah oui, ça y est, c'est parti. Comme chaque soir, de 17h à 19h, c'est Aurélien et Rémi avec vous jusqu'à 19h, du rock, de l'info, des cadeaux, ça s'appelle À qui le tour. Diane Baron sera des nôtres encore une fois ce soir, ça va Diane ?
Ça va.
Et ce sera en prévision de la journée du 8 mars, c'est
ça ? Tout à fait. On va parler des nouveautés en matière de suivi des auteurs de violences, pour éviter la récidive, parce que c'est important.
Des violences faites aux femmes.
Oui, voilà, des violences faites aux femmes.
On verra ça après notre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Battard. Il expose actuellement et pour une quinzaine de jours à la librairie La Femme Renard, c'est Faubourg La Capelle, une exposition de photographie intitulée « Entre le cœur et les corps », c'est qui fait écho en fait à un livre photographie de Patrick Battard et texte de Michel Françoise. Un album de photographie, de texte, mais aussi de musique. Et d'ailleurs, on écoute déjà un premier extrait et après on en parle.
Il roule à tambour ouvert et les fenêtres fermées. Elle est couchée à l'arrière, elle s'est remise à trembler. Il a la rage aux lèvres et la peur sur les talons. Elle a des frissons, de la fièvre, de la sueur plein le front. Ici ou ailleurs, un jour ou bien l'autre, on se connaît par cœur, on devient quelqu'un d'autre. Ce garçon, dans ses yeux, elle s'est vue renaître. Ses mains sont comme le coton de son nom. Elle aime chaque lettre. Ici ou ailleurs, un jour devient l'autre. On se connaît par cœur, on rêve d'aimer quelqu'un d'autre. Il a entendu l'alarme, il a entendu hurler, il a vu briller une arme et juste après, ici ou ailleurs, un jour.
Ici ou ailleurs, extrait de l'album En Surface de Michel Françoise. Alors, pourquoi on écoute ce titre-là ? Ben, tout simplement parce que c'est le point de départ de l'exposition que Patrick Battard vous propose actuellement à La Femme Renard. Bonjour Patrick Battard.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous expliquer déjà cette démarche. Alors au départ, vous, donc vous êtes photographe,
oui.
Vous êtes aussi graphiste, et vous réalisez assez régulièrement des pochettes d'albums de musique. Vous aimez la musique, donc au passage.
Oui, j'aime la musique et ça fait une dizaine d'années en fait que je suis des amis du côté d'Agen, musicien donc. Et ça m'a amené en fait à rencontrer Michel Françoise qui officie du côté d'Astafort, qu'on connaît un petit peu, et qui
pour Francis Cabrel,
voilà, qui travaille avec lui en fait. Et donc en 2009, ça faisait un petit moment que Michel n'avait pas sorti d'album et ça commençait à le titiller. Et donc en 2009, il m'a fait la proposition de rechercher un petit peu des pistes photos sur un prochain album qui allait venir, puisqu'il suivait le travail que je fais depuis un petit moment. Et le fil rouge que j'avais, moi, c'était le titre « En surface ». En surface, et qui voulait donner un petit peu l'impression d'avoir quelqu'un qui est en retrait de la société, un petit peu, qui a un regard un peu décalé, qui serait une vision un peu périscopique de la société. Et donc c'est pour ça que j'ai fait toute une démarche photo avec un regard qui aura du sol, qui part de la pochette du disque jusqu'à toutes les autres photos qui sont en fait au ras du sol.
Oui, c'est comme si on était allongé par terre.
Tout à fait.
On s'allonge par terre et on regarde. Voilà. On est à peu près à 10 cm au-dessus du sol.
Voilà. Là. Donc on capte des moments qui paraissent banals comme ça, mais qui en fait avec ce regard décalé nous offrent une nouvelle vision de la réalité. Donc ce qui collait pas mal à son concept d'album, donc il a tout à fait accroché au concept. L'album est sorti donc en 2009 et quelques mois plus tard, en fait, il m'a recontacté en me disant mais j'ai un problème, il y a des photos que tu as faites qui me hantent en fait et qui ont fait que j'écris des textes. Et là,
c'est l'arroseur arrosé. Là.
Voilà, c'est ça. Autant les photos sont parties de la démarche de l'album, autant ensuite le boomerang est revenu et donc il avait fait une douzaine de textes. Et donc on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Donc une fois qu'il a terminé sa démarche, on a réuni ses textes dans un livre. Et donc maintenant que le livre est sorti, donc ça fait un peu plus d'une année que je fais des expositions autour des tirages, mais en restant toujours indissociable entre la photo et le texte. Donc les tirages qui sont exposés à la Femme Renard reprennent non seulement la photo, mais le texte qui va avec, qu'on retrouve dans le livre. On retrouve à peu près la même composition entre le texte et l'image.
L'exposition aurait pu s'appeler En surface, mais elle s'appelle Entre le cœur et l'écorce.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas exactement En surface, puisque c'est une démarche inverse. C'est le prolongement de l'album En surface. Donc c'est pour ça que le titre ne se retrouve pas. Et effectivement, dans les photos aussi, il y en a qui sont pas issues de cette série En surface, mais qui ont inspiré Michel aussi. Donc elles font partie de l'album, du livre, mais... c'est une conséquence de l'album.
Alors, lui, donc, il a été inspiré par vos photographies pour écrire des textes. Vous vous êtes inspiré de ses textes et de son univers pour faire ses photographies. Ouais. Comment ça se passe dans la démarche de votre travail? Par exemple, pour faire la pochette, la première de couve de cet album. Je vais essayer de décrire, on est dans une rue qui pourrait être une rue parisienne, parce que par terre c'est du pavé, ouais. du gros pavé de granit, et on voit un couple sans doute qui passe, puisque on voit une chaussure à talons et puis une autre chaussure qui est un peu plus en avant, mais qui est une chaussure plate d'homme. Donc on imagine un homme et une femme sortant la rue, se tenant par la main. Quand vous faites cette photographie là, Elle est posée. Comment ça marche là? Parce que là, j'imagine votre appareil photo par terre.
Il est par terre, oui. Ouais. Donc, pour dévoiler un petit peu l'envers du décor, c'est la place du Capitole, et donc c'est le passage qui sort de
la mairie.
De la mairie. Donc, ça a toute une symbolique aussi, parce que c'est par là que sortent pas mal de couples lors de cérémonies de mariage. Moi, la photo, aujourd'hui, le monde de la photo est très axé sur la scénarisation, la pose, tout ça. Moi, c'est quelque chose, j'ai beau essayer, j'arrive pas. Donc là, c'est quelque chose de spontané.
Je fais pas du douaneau.
Donc là, c'est quelque chose de spontané. C'est une séquence qui a duré une trentaine de minutes, où je prenais des passants, en fait. À l'insu de leur plein gré, on va dire.
Ouais,
et donc j'ai comme ça des enfants qui jouent au ballon, des personnes qui passent avec des chaussures un peu atypiques. Mais j'ai ce couple qui sort de cette série-là, qui a fait la pochette de l'album.
Mais justement, vous recherchez quoi à ce moment-là? À quel moment vous vous dites tiens, je vais avoir la bonne photographie? Est-ce que vous la fantasmez, cette photographie, par rapport à un texte, par rapport à une phrase? Qu'est-ce que c'est exactement
en fait,
qui fait que vous recherchez ça?
On se place dans un contexte où on va réunir plusieurs composantes qui vont faire qu'il y a une alchimie qui peut prendre, mais on ne sait jamais si elle va prendre ou pas. Par contre, souvent, lorsque ça se passe, avant de voir la photo, on sait que dans la boîte, on a vraiment quelque chose qui tient la route. Là, en l'occurrence, je savais qu'en réunissant un petit peu cette ambiance, donc avec les pavés très très bruts, qui donnent un côté un peu ancien, cette porte qui est surexposée aussi, qui donne un peu un éclat de lumière et
on va vers la lumière.
Voilà, et des passants qui allaient avoir une position tout à fait naturelle par rapport à ça, et associé à un regard décalé qui aura du sol, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui pouvait en sortir. Et effectivement, quand ce couple est passé, j'ai trois photos d'eux en fait. Et je sentais vraiment que c'était cette photo-là qui était la plus intéressante.
Patrick Battard, de quelle manière on doit regarder une photographie et qu'est-ce qui fait une bonne photographie en quelque sorte? C'est la découverte quand on plonge dedans. C'est quoi? C'est...
Je peux pas vous dire. Il y a plusieurs démarches en fonction de chaque photographe. Moi, c'est plus une question de ressenti et d'évocation, le pouvoir évocateur de l'image. La plupart des photos que je fais sont dépourvues de personnages. C'est plus des traces de personnages qui m'intéressent. C'est essayer d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer dans un décor. Je m'attache plus au décor qu'à représenter les personnages eux-mêmes. Donc, par exemple, celle-ci à laquelle je tiens beaucoup, qui représente en fait, donc c'est une photo qui est dans le livre, qui fait partie de l'exposition aussi. Où en fait, on a une photo horizontale qui est découpée en deux parties. On a la partie basse qui est qui représente en fait les peintures au sol qui sont sur les passages de bus, par exemple. Donc on voit une grande flèche blanche sur un fond vert qui prend à peu près la moitié inférieure de l'image. Et la moitié supérieure, ce sont en fait une petite dizaine de personnes qui sont coupées en fait au niveau des genoux à peu près. Donc on voit que les pieds et le bas des jambes. Donc il y a une photo comme ça où les personnes nous font face, mais on ne voit pas leur visage. Et pourtant, on sent bien leur présence. Donc ça, c'est plus cette démarche-là qui m'intéresse.
C'est pas celle-là, hein?
Non, c'est pas celle-là.
Non. Parce que je me disais, mais que voit-il? Je suis en train de regarder un grillage araignée.
Et en fait, il y a des affiches pour la femme renard devant l'entrée. Et celle-ci en fait partie.
D'accord. Voilà. Ah ben tiens, si vous permettez que je lise le petit texte qui accompagne la photo. Hein, je vais faire ça. Le bateau ivre. Je m'étais perdu dans la foule. J'étais perdu, mais pas comme un enfant en pleurs de ne plus trouver ses parents. Je m'étais perdu volontairement. J'entre dans la cohue. Je me laisse emporter par les courants jusqu'à ne plus savoir où je suis. Une barque sur un fleuve agité. Les heures s'envolent avec les idées noires. C'est en faisant le bateau ivre que je t'ai rencontré. Sans doute porté par le même courant. Nous sommes arrivés, ensemble, à bon port. Tu as souri, je t'ai parlé. J'ouvrais mon cœur comme un chirurgien l'aurait fait. J'ai dû trouver les mots juste les mots. Je ne sais pas. Tu as plus voulu partir, jamais. Tu es un ange et moi, le pilote d'un bateau ivre. Quand je vois le soleil se coucher derrière les brumes à l'horizon, je sais que bientôt, vers toi je reviendrai, porté par les courants. Voilà ce texte donc de Michel Françoise qui accompagne une des photographies dans l'album Entre le cœur et l'écorce. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec Patrick Battard. Exposition visible à la Femme Renard. Un petit peu de pub et on revient.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Du 6 au 12 mai, le festival Alors Chante revient pour sa 28e édition. Un rendez-vous incontournable de la chanson francophone. Plus de 60 artistes pendant 6 jours avec Section d'Assaut, Olivia Ruiz, Trio, Bébé Brune et bien d'autres. Cette 28e édition du festival Alors Chante s'annonce pleine de surprises avec bien sûr moments zik et les découvertes. Du 6 au 12 mai, festival Alors Chante, site Eurythmie à Montauban. Infos et réservations sur alorschante.com.
À côté du bâtiment Sauviferme à Villefranche-de-Rouergue, le magasin dédié à vos passions, c'est Alcedo Chasse et Pêche. Alcedo, c'est d'abord l'expérience, la proximité et la passion.
Pêcheurs, avocats à pêche. Samedi 9 mars, c'est l'ouverture de la truite. Chez Alcedo Chasse et Pêche, arrivage en masse de nouveaux matériels et moins 10% sur tous les articles pêche avec la carte fidélité gratuite. Samedi 9 mars, que les fario et les arcs-en-ciel soient au rendez-vous. Merci Alcedo.
Fini le gaspillage, place aux économies. Universel Construction à Montauban, spécialiste de la rénovation et de l'isolation par l'extérieur pour le confort de votre maison. Avec Universel Construction, découvrez la technique d'isolation par l'extérieur avec la visite d'un chantier sur Montauban. Visitez ! C'est gratuit et un technicien répondra à vos questions. L'occasion d'en savoir plus et de faire des économies avec Universel Construction. Appelez-nous ! Retrouvez nos coordonnées sur universelconstruction.fr. Universel Construction, la maîtrise de l'isolation.
Rugby Fédéral 1, samedi 9 mars. Match au sommet. Les Montalbanais accueillent Nevers. L'USM face à Nevers, c'est samedi 9 à 16h. 16h. Tous à Saint-Piac pour vivre une rencontre où l'enjeu est grand. Match en levée de rideau à 14h30. Retrouvez l'actu du club sur www.usm-rugby.fr. Samedi 9 mars.
Gagnez votre place en appelant dès maintenant au 05 63 930 020.
CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7. 90.7.
On reprend notre conversation avec Patrick Battard qui expose à la femme renard. Vous m'avez pas dit pourquoi le livre photo s'appelle Entre le cœur et l'écorce, Patrick?
C'est Michel qui en est l'auteur au niveau du titre, même si on était d'accord tous les deux. Mais c'est un petit peu le principe d'En Surface, c'est-à-dire qu'entre le cœur et l'écorce. Si je peux traduire ce qu'il a voulu mettre dans ce titre, c'est évoquer quelque chose qui est entre l'extérieur, donc l'écorce, et l'intérieur, le cœur, mais qui est impalpable puisque c'est entre les deux. Donc c'est ça tient plus des sentiments, des sensations, des choses comme ça. Voilà.
Voilà, expo à voir donc à la Femme Renard pendant 15 jours. Vous m'avez dit hors antenne que ça fait pas très longtemps en fait que vous êtes passé en pro de la photographie, même si ça fait très longtemps que vous en faites. C'est pas une drôle d'aventure ça aujourd'hui d'essayer de devenir photographe professionnel à l'heure d'internet et du plagiat tout va, où tout le monde fait, devient photographe avec son iPhone.
Tout à fait. Hein,
c'est une démarche compliquée ça aujourd'hui.
Comme disait, il y a Reza qui pas longtemps était passé sur TLT lors d'une interview, on lui faisait la même réflexion et donc il disait c'est pas parce que tout le monde a un stylo que tout le monde s'appelle Victor Hugo. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est une profession qui est complètement sinistrée. Au niveau du photoreportage, il y a plus aucun titre qui finance des photoreporteurs. Au niveau des commandes publiques, on fait beaucoup appel à des amateurs ou à des concours pour dynamiser le fond, on va dire, mais qui derrière ne fait pas vivre de photographe. C'est une profession qui est vraiment très difficile, mais je me suis dit que d'un autre côté, si je faisais pas la démarche moi volontaire de passer pro et d'essayer d'en vivre, j'aurais pas le coup de fouet nécessaire pour aller voir des gens que je serais peut-être pas allé voir forcément pour faire de la photo. Donc c'est difficile. Il y a très peu de photographes qui en vivent à 100% aussi. Il y en a beaucoup qui donnent des cours, qui font graphiste, mais qui arrivent à trouver des choses dans la photo aussi. Mais les cours photo sont quelque chose qui marche beaucoup.
Ouais.
Il y en a d'autres qui travaillent dans des magazines de presse
spécialisés. La photographie comme objet d'œuvre d'art se vend très mal en fait, voire se vend pas du tout.
On a
des expos de tableaux, des croûtes parfois. Le moindre petit peintre va réussir à vendre ses toiles, alors que bien souvent vendre une photographie c'est quelque chose de compliqué quoi.
Oui et non, parce que la photo est rentrée quand même dans le marché de l'art depuis les années 2000. Là. Je crois que le record est à 4 millions d'euros.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose de monstrueux.
Et
pour un auteur vivant en plus.
Ouais.
Donc il y a de la place, mais c'est clair qu'il faut faire des choix et on peut pas rester entre les deux. Donc moi c'est plus vers ce type de photo que je veux aller justement, c'est à travers les expositions et à travers de la vente de tirages qui peut s'adresser à n'importe qui en fait.
Mmh.
Mais retrouver le côté unique du tirage aussi, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, où on a affaire à énormément de supports, de fichiers, on voit beaucoup de photos, c'est quelque chose qui se consomme énormément. Mais après, qu'est-ce qu'il en reste vraiment à la fin d'une année, quelles sont les photos marquantes qu'on va garder. Il y en a vraiment très peu. Donc.
Comment vous bossez? Vous photoshopez, comme on dit?
Je photoshop pas, parce que ça me rappelle sinon ma vie de graphiste. Donc je photoshop pas. Je fais pas de montage, je touche les niveaux, on va dire, sur le logiciel pour développer les fichiers numériques, qui est l'équivalent du labo argentique. Mais en dehors de ça, non, je ne photoshop pas.
D'accord. Donc
c'est un choix politique, on va dire.
Un bon cadrage après, et puis pouvoir retrouver l'œil du photographe sans qu'il y ait eu forcément l'artifice derrière. Ouais.
Pour moi, la plus grande satisfaction, c'est sur le terrain quand on fait la photo. C'est pas ensuite lorsqu'on va la découvrir sur l'écran ou sur le labo. C'est vraiment comment on fait la photo, et même si on voyait pas les photos après, ça me dérangerait pas. C'est un petit peu comme dans un voyage où on dit que le plus intéressant c'est pas la destination mais c'est le voyage. Là, c'est un petit peu le même cas avec les photos.
Vous avez un site internet. Qu'est-ce que vous pensez des photographies qui se pillent sur internet, qui passent d'un site à l'autre pour illustrer tel ou tel propos de tel blogueur ou de tel journaliste?
Quand c'est des blogueurs, des journalistes, des gens qui apportent de, on va dire, de l'argument derrière, pourquoi pas. Là où ça me dérange, c'est pour des sociétés commerciales qui vont utiliser ce moyen-là pour éviter d'acheter des photos. Là, oui. Une agence touristique qui va vendre des voyages à 1500 ou 3000 euros la semaine, qui va aller piquer des photos, ça c'est déjà...
Il y a des gens qui se sont retrouvés, avec leur tête, alors qu'ils étaient en vacances, c'était leur tête piquée sur Facebook.
Il y a des photos de photographes dont c'est le métier, qui ont fait des super paysages, je sais pas, de la Corse par exemple, et ils se font piquer leurs photos de la Corse pour mettre sur l'agence de voyage locale. Voilà, ça c'est plus condamnable.
Et est-ce qu'il y a des recours comme ça quand
Il y a des recours, mais c'est
compliqué.
Là aussi, on a du mal à comprendre. J'ai eu pas mal au niveau de la profession sur les critiques, sur les jugements, et on a vraiment du mal à comprendre la cohérence des jugements, parce que le principe de précaution fait qu'en fait on considère le photographe comme un délinquant, dans le sens où il va violer les droits des personnes qui va prendre en photo. Il va falloir qu'il prouve que c'est lui qui a fait les photos, et ensuite il va falloir qu'il prouve que sa photo a quelque chose d'original. Alors là, c'est ouvert à la subjectivité totale, mais pour ça les juges ont compétence apparemment, donc...
Ah oui, c'est eux qui jugent si c'est original ou pas. Vous pourriez être paparazzi, ça vous tente?
Non, ça va, hors de question. Je pourrais pas. Je voudrais bien essayer, mais je crois que je pourrais pas physiquement. C'est...
Entre le cœur et l'écorce, c'est l'expo à voir donc à la Femme Renard, la librairie La Femme Renard, c'est Faubourg La Capelle à Montauban. Texte de Michel Françoise qu'on a écouté et puis qu'on va réécouter encore un petit peu là pendant quelques mesures au moins sur un morceau plus récent issu d'un album De Monde. Oui. Merci d'être venu en parler ici. Je vais y arriver, Patrick Bacard.
Avec plaisir.
J'ai failli vous appeler Bertrand, ça a pas eu plus. Merci, à bientôt.
Je gardais un œil ouvert en attendant que l'on cogne à ma porte pour affaire. Sur un carnet de Moleskine, une photo épinglée et quelques doses d'héroïne dans leur sachet.